Le Brexit a 10 ans. Il y a 10 ans, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Mais au profit de qui d'ailleurs ? Au profit des Anglais, des Européens, de nous, Français ? Et si les défenseurs du Brexit avaient menti à tout le monde ? Vous écoutez et vous regardez le 115e épisode de Quid Juris. Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes, préparé avec Elsa France, en partenariat avec BFM. Vous le savez, Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Et l'actualité cette semaine, oui, c'est un anniversaire, le Brexit. Il y a 10 ans, le 23 juin 2016, le Royaume-Uni prenait la décision de quitter l'Union européenne au terme d'un référendum historique. Et pourtant, le sujet, 10 ans après, est toujours au cœur de l'actualité politique. La preuve, le Premier ministre britannique Keir Starmer vient de donner sa démission. Alors certes, après avoir perdu le contrôle de sa propre majorité au sein du Parti travailliste, mais il est sans doute la dernière victime en date du Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réussi à canaliser les conséquences économiques de ce Brexit. Et puis surtout, il n'est pas parvenu non plus à rapprocher l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors c'est vrai que les Anglais ont toujours été très ambivalents avec l'Union européenne. Quand ils étaient dedans, ils voulaient échapper à Schengen, à l'euro, payer moins pour leurs contributions. Et puis aujourd'hui, ils semblent majoritairement regretter cette sortie de l'Union européenne, tout en plébiscitant le parti anti-européen de Nigel Farage, Reform UK. Bonjour Aurélien Antoine.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, professeur de droit public. Vous êtes spécialiste des institutions britanniques, chercheur associé au Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Votre ouvrage, Le Brexit, une histoire anglaise, qui était paru il y a 6 ans aux éditions Dalloz, a reçu le prix de l'Institut de France, le prix Auguste de Bouzy du Club des Juristes. Et votre dernier livre que j'ai lu hier, Le Royaume-Uni, une société libérale en péril, est sorti le 27 mai aux éditions Odile Jacob. Bref, vous êtes l'expert qu'il nous faut pour décrypter les conséquences juridiques de ce Brexit et peut-être aussi les implications qu'aurait, pourquoi pas, certains en parlent, un éventuel retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Mais d'abord, une question. J'ai l'impression, 10 ans après, que les Français et les Européens vivent finalement assez bien cette séparation. Je me souviens même d'un trait d'humour dans les journaux français. On disait, messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Vous vous souvenez de ça comme moi. Mais les Anglais, 10 ans après, qu'est-ce qu'ils en disent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Alors, vous dites les Anglais, c'est assez juste. Les Anglais étaient parmi les nations britanniques, enfin les peuples des nations britanniques, les plus favorables au Brexit. Les Écossais diraient pas la même chose. Les Gallois étaient plus partagés et les Nord-Irlandais étaient hostiles aussi au Brexit. Donc c'est vrai que c'est une question anglaise assez largement. Et même au sein de l'Angleterre, les positions sont relativement distinctes entre, le riche Anglais du sud de l'Angleterre, celui qui est victime de la classe sociale qui est ancienne dans le nord de l'Angleterre, et puis le londonien qui va être très favorable à l'Union européenne, à l'ouverture sur le monde. Donc c'est surtout une société fracturée, il est très difficile de dire les Britanniques pensent cela.
Alors moi je me souviens il y a 10 ans, la campagne pour ou contre le Brexit, ceux qui défendaient le Brexit promettaient le retour à une forme de souveraineté, souveraineté dans tous les domaines, notamment le contrôle des frontières, le contrôle des lois aussi. Est-ce que cette promesse, 10 ans après, on peut dire qu'elle a été tenue ou pas du tout ?
Du point de vue de la souveraineté juridique, donc de pouvoir élaborer ses propres normes sans avoir une forte influence de l'Union européenne, avec le principe de primauté, les faits directs et la prise en compte par les institutions britanniques et notamment les juridictions britanniques de ces principes du droit de l'Union européenne, il y avait évidemment une forte contrainte sur la souveraineté juridique qui, en principe, semble lever avec le Brexit.
Attendez, je vous interromps, vous dites « semble ». Pourquoi ? C'est pas forcément le cas ?
C'est pas forcément le cas. D'abord parce que le Royaume-Uni est lié à l'Union européenne par un ensemble de traités de Brexit, donc l'accord de retrait principalement et l'accord de commerce et de coopération, qui impose quand même un certain alignement, ne serait-ce que pour éviter le rétablissement de droits de douane.
Donc du point de vue juridique, c'est pas aussi évident que ça. Il y a encore des liens extrêmement ténus entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Alors il y a des liens qui sont assez étroits parce qu'il y a un principe fondamental qui est dans l'accord de commerce et de coopération qui s'appelle la concurrence concurrence équitable, level playing field, qui implique alors non pas une uniformisation ni même une harmonisation complète des règles en matière commerciale, fiscale, environnementale ou sociale, mais néanmoins d'avoir quand même une convergence. Et force est d'admettre dans toutes les études scientifiques que l'on peut mener, et même moi au sein de l'Observatoire du Brexit avec les postdoctorants qui ont pu m'accompagner,
on que a vous remarqué... dirigez d'ailleurs depuis 2017, je crois.
Voilà, c'est ça. Et quand on regarde, qu'on essaie de faire l'examen des divergences, alors il y en a, mais elles ne sont pas massives, elles ne sont pas nombreuses. Vous avez une espèce de tracker du gouvernement britannique qui vous indique les législations qui ont été revues et qui continuent d'être alignées très proches de celles de l'Union européenne. Elles sont très majoritaires.
Et puis, il y a le cas particulier, pour le coup, de l'Irlande du Nord. Vous avez commencé à l'évoquer. Là, pour le coup, c'est inchangé.
Alors, l'Irlande du Nord est dans une situation particulière. Juridiquement, elle fait partie de deux zones de libre-échange, celle de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles.
Et en même temps, l'Union européenne.
Et en même temps, l'Union européenne, pour éviter le rétablissement de frontières avec la République d'Irlande du Sud. Donc là, par exemple, l'Irlande du Nord est soumise au code des douanes de l'Union européenne et à la juridiction de la Cour de justice en ce domaine.
Alors, je voudrais qu'on fasse quand même un petit peu d'histoire pour celles et ceux qui nous regardent. Le 23 janvier 2013, donc il y a 13 ans de cela, David Cameron, qui est alors le Premier ministre, hein, conservateur du Royaume-Uni, il annonce qu'en cas de réélection législative en 2015, il organisera un référendum d'appartenance à l'Union européenne. Il est réélu en mai 2015, il tient sa promesse, il fait campagne en faveur du maintien, mais il est battu et le référendum à près de 52% choisit donc le Brexit. Il annonce sa démission le lendemain. Les Anglais, on le disait, voulaient reprendre leur destin en main, comme on dit. C'est en tout cas ce que leur avaient vendu les Brexiteurs. 10 ans après, et malgré la sortie de l'Union européenne, pourquoi ce sujet est encore au cœur de toutes les discussions politiques outre-Manche ?
Alors, je ne sais pas s'il est au cœur de toutes les discussions politiques, c'est plutôt une petite musique qui revient régulièrement dans le débat public. Les Britanniques, si on leur pose la question « Est-ce que vous regrettez la sortie de l'Union européenne ?», vous l'avez dit, ils le regrettent.
Mais presque encore... 6 sur 10, hein, oui, 57 c'est un peu, ou 58%.
Ça, entre 55 et 58% selon les dernières enquêtes d'opinion. Mais si on ne leur pose pas la question, ce n'est pas leur sujet de préoccupation majeur, il y en a d'autres. Et très clairement, mis à part récemment, le ministre de la Santé démissionnaire, Wes Streeting, personne n'a mis les pieds dans le plat chez les travaillistes.
Qui, lui, est favorable à un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais même Keir Starmer était non pas favorable à un retour dans l'Union européenne, mais en tout cas à un rapprochement fort. Et puis, en face, il y a un parti qui, lui, est carrément anti-européen et tape à bras raccourcis tous les matins sur l'Union européenne, alors que la Grande-Bretagne n'y est plus.
C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a un positionnement. C'est-à-dire que si on demande aux conservateurs, alors les conservateurs sont très divisés, les travaillistes ne veulent pas rouvrir la boîte de Pandore, mais ils sont favorables à ce qu'a appelé le roi et donc en fait le gouvernement dans son discours de mai dernier, le réalignement dynamique, en fait qui est un réalignement normatif dynamique. Et puis vous avez des partis qui sont aussi très favorables au retour. Ça a toujours été dans leur état d'esprit, dans leur programme, les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais par exemple, une partie des Verts qui monte un peu en puissance. Puis vous avez Reform UK qui est sur la ligne. Le Brexit aurait pu être une chose merveilleuse, mais ça a été mal fait. Voilà, ça ne mange pas de pain, entre guillemets, de dire cela, puisque tant qu'on n'exerce pas le pouvoir, on n'en voit pas les contraintes. Mais on serait bien curieux de savoir ce que Nigel Farage ferait en tant que Premier ministre pour réaliser un bon Brexit.
Alors c'est vrai que vous êtes un spécialiste, vous, des institutions britanniques. Ce qu'on peut dire quand même, 10 ans après le référendum, mais 5 ans clairement après la sortie effective de l'Union européenne, les institutions britanniques, elles ont parfaitement tenu. En revanche, ce qui n'a pas tenu, c'est le pouvoir politique. Parce que tout ça s'est fait au prix d'une instabilité chronique. Je crois qu'on en est au 7e Premier ministre en 10 ans.
On va avoir le 7e, oui.
Ils vont bientôt être au même niveau que la France, hein. Il faut qu'ils fassent très attention. Mais c'est intéressant de voir que les institutions, quand même, ont parfaitement tenu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.
C'est vrai qu'il y a une forme, c'est une thématique qui est assez portée dans les études de droit constitutionnel aujourd'hui, notamment pour l'Allemagne, sur l'idée de résilience démocratique. C'est notamment ma collègue Aurore Gaillier qui en parle pas mal, et on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on a des principes constitutionnels, et en ce qui concerne le Royaume-Uni, quand même une histoire incroyable du point de vue du parlementarisme, construction de la démocratie, du respect de ce qu'on appelle là-bas le rule of law, qu'on assimile un peu de façon rapide avec l'état de droit chez nous, il est vrai qu'il y a eu une capacité d'absorber le choc. Et c'est le cas de la Cour suprême qui est le plus intéressant finalement à étudier, parce que durant cette crise paroxystique entre le Parlement et l'exécutif, qui était un peu pour schématiser une opposition entre deux souverainetés, la souveraineté parlementaire, qui est un principe essentiel de la Constitution britannique, et puis des gouvernements conservateurs qui vont vouloir faire le Brexit au nom de la voix du peuple, entre guillemets. Et donc, vous aviez eu un peu cette opposition souveraineté parlementaire, souveraineté populaire. Et la Cour suprême est venue arbitrer, toujours en faveur de la Cour suprême, parce que c'est du Parlement, pardon, parce que c'est le principe de souveraineté parlementaire qui prime, le respect des procédures, du droit, et elle a été assez activiste, notamment sous l'influence de la présidente, très charismatique présidente, Lady Hale. Aujourd'hui, on constate crise sur ce point-là, en tout cas dans la relation Parlement-exécutif, qui n'est plus constatée, et on constate une espèce de self-restraint de la Cour suprême.
Alors, je l'ai dit, il y a eu un référendum, mais la sortie effective s'est faite le 31 décembre 2020, vous m'arrêtez si je me trompe, ça a mis beaucoup de temps à être négocié, notamment avec le négociateur en chef qui était Michel Barnier. Quels sont aujourd'hui, du coup, depuis la sortie effective, les textes juridiques qui organisent, j'allais dire, les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne désormais ?
Alors, je vous l'ai dit, il y a deux grands accords de droit international. L'accord de retrait, qui a aménagé la phase de transition vers la relation future.
On en est sorti d'ailleurs ou pas au bout de 5 ans ?
Alors, on est sorti de la phase de transition, mais vous avez des dispositions qui s'appliquent encore. Vous avez encore des situations juridiques qui sont régies par le droit de l'Union européenne et qui sont nées avant le Brexit effectif. Et vous avez encore des contentieux pendants qui appliquent le droit de l'Union européenne devant les juridictions, par les juridictions britanniques, et qui appliquent le droit de l'Union européenne comme avant. Et il y a des affaires assez intéressantes qui permettent de voir finalement l'effet, j'allais dire, à ricochet du droit de l'Union
européenne. Ça, c'est l'accord de transition. Et puis, il y a un accord de coopération, essentiellement commercial, j'imagine, qui gère les relations économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Voilà, cet accord est à la fois un aboutissement, mais aussi un point de départ, parce qu'il est lacunaire dans de nombreux domaines. Par exemple, et je pense que ça intéresse un certain nombre de vos spectateurs et auditeurs, par exemple, dans le domaine des professions juridiques, l'accord de commerce et de coopération ne prévoit rien sur les qualifications professionnelles. Il n'y a rien de prévu. Ça a pu être un élément de forte critique de cet accord, mais il ne les empêche pas non plus.
Mais j'ai l'impression que la mise en application de ces textes, ça a quand même pas été simple. Alors, je pourrais prendre quelques détails, mais on se souvient des queues à la frontière pour les camions, par exemple. Toutes les entreprises de transport se plaignent de toute la paperasse qu'il y a désormais à remplir. Les citoyens britanniques se plaignent des droits de douane et donc du renchérissement du prix des biens et denrées qu'ils importent sur le sol britannique. Il y a quand même des conséquences concrètes, quotidiennes dans la vie des Anglais.
Oui, alors au moment du Brexit, des négociations et juste après, c'est incontestable. Et c'est là où, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur Nigel Farage et d'une hypocrisie mensongère insupportable, c'est que ces frottements, ces difficultés, de la même façon que quand les Britanniques ont adhéré à l'Union européenne, ça a été compliqué. En sortir, c'est compliqué. Vous changez de régime juridique et de statut juridique, évidemment. Et dans ce cadre-là, ça demande une adaptation coûteuse, d'autant que les Britanniques et l'administration britannique n'étaient pas préparés, a été victime des comportements erratiques de Boris Johnson, qui a refusé d'appliquer, notamment pour l'Irlande du Nord, le protocole qu'il avait lui-même signé en le dénonçant politiquement, sans le dénoncer juridiquement. Et puis, vous avez, souvent au Royaume-Uni, oui, c'est quand même problématique, l'ITA, le titre voilà, que vous devez payer tous les 2 ans pour tout simplement aller faire du tourisme au Royaume-Uni, c'est quand même plus de 20 euros à débourser. Quand vous êtes... Et bien sûr, ceux qui ont le plus subi aussi cela, ce sont les étudiantes et les étudiants, les artistes. Pour les tournées, ça a beaucoup compliqué les choses pour
et
aller vers l'Union européenne.
Et maintenant, au quotidien, ça prend autant de temps de prendre l'Eurostar que de prendre un avion pour aller à l'étranger. On est obligé de passer la douane. C'est vrai que ça a compliqué les choses. Est-ce que vous diriez que le Royaume-Uni, depuis ce Brexit, est une économie moins ouverte qu'elle ne l'était auparavant ?
Alors, il y a un peu un débat chez les économistes. Je lisais encore un article de d'experts dans un grand quotidien national et qui disaient ça n'a pas été la catastrophe annoncée. Le Royaume-Uni est aussi compétitif que le reste de l'Europe, sachant que l'Europe n'est pas très compétitive en ce moment, mais que ça n'aurait rien à voir avec le Brexit. Ce qui est difficile, c'est d'évaluer précisément l'impact du Brexit, surtout quand il y a eu la Covid-19 après, la guerre en Ukraine et les guerres au Moyen-Orient.
C'est trop tôt pour le savoir, en fait.
Mais même, je pense que pour les économistes, c'est un casse-tête. Mais on a quand même des chiffres de l'Office for Budget Responsibility, l'ORB, qui est un organe très sérieux au Royaume-Uni, qui chiffre quand même un impact sur le PIB qui est conséquent. Pas au point de ce qui était évoqué par ceux qui voulaient le maintien dans l'Union européenne, qui ont aussi menti, en exagérant les chiffres.
Certains disent que le Royaume-Uni a compensé ce qu'il perdait avec l'Union européenne, l'a compensé avec d'autres accords commerciaux avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors c'est un argument qui est apporté, mais ne dire qu'on conclut plein d'accords, ça ne veut pas dire qu'ils ont un impact sur le produit intérieur brut très fort. Et il a été chiffré, ce PIB, ce que gardent bien de dire ces experts, notamment chiffré par la Chambre des communes qui a des commissions absolument remarquables qui étudient tous les pans du Brexit avec les meilleurs experts. Et par exemple, un accord avec l'Australie ou avec le Japon ou la Nouvelle-Zélande, c'est 0,02 à 0,06 points de PIB.
Donc c'est assez peu
impactant. C'est assez anecdotique.
Vous avez bien expliqué ces deux textes qui gèrent la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est deux accords cadres, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a encore des points juridiques qui posent problème entre le Royaume-Uni et le continent européen?
Alors, des points juridiques, il peut y en avoir sur le fameux système des équivalences pour les services financiers, qui font l'objet toujours de discussions. Aujourd'hui, la question de la pêche semble s'être apaisée, mais vous vous souvenez, au début du Brexit, les négociations des quotas ont toujours pris beaucoup de temps.
Ça a été plus ou moins réglé lors du sommet Europe-UK, Europe-Royaume-Uni, au mois de mai dernier.
C'est ça. Donc ça semble s'améliorer, mais rien ne dit. Demain, vous avez des personnalités politiques qui sont plus hostiles à l'Union européenne, ça peut recommencer. Et d'ailleurs, on sait que sur la pêche, et notamment la question des îles anglo-normandes, ça revient régulièrement. Et puis, il y a la question de l'Irlande du Nord. Le protocole nord-irlandais a été amendé sous Rishi Sunak, le dernier Premier ministre conservateur, par le cadre de Windsor, le Windsor Framework, qui a apaisé les choses, mais qui est d'une complexité invraisemblable. Là aussi, la Chambre des communes a émis un certain nombre de critiques, et il suffit qu'il y ait de nouveau des tensions politique assez vive pour qu'il soit remis en question.
Alors, je parlais au début de notre échange de la schizophrénie des Anglais vis-à-vis de l'Union européenne. J'ai vu qu'en 2024, ils avaient commencé à réintégrer, par exemple, les programmes scientifiques européens comme Copernicus. J'ai vu qu'à partir de 2027, il y a 100 000 étudiants qui pourront bénéficier d'Erasmus, dont ils sont mécaniquement sortis en quittant l'Union européenne. Ils vont y revenir. On a l'impression que c'est un peu compliqué quand même. Ils sont sortis, mais ils nous aiment bien quand même, enfin, en tout cas pour un certain nombre de choses. En fait, c'est comme dans un divorce. C'est très compliqué, pardon de l'exemple trivial, mais c'est très compliqué de se rabibocher avec son ex.
C'est l'image qui est souvent utilisée, c'est pas complètement faux, mais quand on, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des négociations, Michel Barnier avait fait un schéma, ses équipes avaient fait un schéma très didactique sur le type de relation que l'Union européenne peut nourrir en fonction des précédents juridiques qu'elle avait avec tel ou tel pays. Et j'aime pas déjà à l'époque me projeter faire la Madame Irma du droit, mais j'avais dit vraisemblablement, connaissant les Britanniques, on pourrait évoluer vers un type de modèle suisse. Et force est d'admettre que ce modèle suisse qui n'est pas apprécié par l'Union européenne, qui crée beaucoup de tensions, d'ailleurs à la même époque que le Brexit, s'est passé un peu inaperçu, mais on a eu de très fortes tensions entre l'Union européenne et la Suisse, notamment parce qu'on en avait assez de cette multiplicité d'accords détaillés, complexes. Et force est d'admettre, quand vous voyez certains mécanismes, et là je vais encore parler de l'accord de Windsor, du cadre de Windsor sur l'Irlande du Nord, quand vous voyez qu'il faut négocier un élément secteur par secteur pour approfondir ce qui a été prévu dans l'accord de commerce et de coopération, ça en prend quand même un petit peu le chemin.
Bon, il faut qu'on consacre quand même quelques minutes à parler du grand sujet qui fâche, qui est la question migratoire. Pas simplement d'ailleurs entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais même entre la France, pardon, et le Royaume-Uni. Le 23 avril 2026, la France et le Royaume-Uni ont renforcé leur coopération dans la Manche. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est toujours la frontière britannique, elle est bien sur le sol français. C'est-à-dire qu'on joue les gardes-frontières judiciaire pour les Britanniques, moyennant finance d'ailleurs. Or, j'entends les Britanniques qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a jamais eu autant de migration vers les îles anglaises. Et en même temps, j'entends les Français dire qu'ils ne sont pas contents non plus de jouer les gardes frontières pour les Britanniques. Mais en même temps, personne ne veut toucher ni aux accords du Touquet, ni au traité de Sandhurst. On en est où sur cette question-là ?
Bah, vous l'avez dit, en fait, on négocie en permanence les sommes que les Britanniques versent pour effectivement
obtenir des Français. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros
par an. Oui, c'est très élevé. Et les Britanniques, on dit, on voudrait avoir évidemment plus de résultats, sans quoi ils n'ont pas complètement tort. Et il y a des vrais drames humains. C'est quand même d'abord cela dont il faut parler. C'est d'abord des drames humains. Et puis, il faut le replacer dans un certain contexte. C'est une part finalement assez réduite de l'immigration au Royaume-Uni. Il y a une grosse focale qui est faite dessus en raison des drames humains et en raison de l'exploitation par une certaine partie des personnalités politiques. On en a évoqué un certain nombre, avec un discours qui se radicalise, même chez Keir Starmer.
C'est une petite partie ?
Bah parce que si on regarde, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par immigration, migration, migrant. Les définitions en droit international, en droit européen ou dans les droits nationaux ne sont pas forcément les mêmes, mais par exemple les small boats en question dans le cadre des demandeurs d'asile et de l'immigration illégale sur le total de l'immigration, selon certains chiffres, c'est 5%. Donc c'est toujours peut-être trop, je n'en sais rien.
Selon 5% certaines personnes, du total
ou, alors selon ce que l'on met dans l'immigration, parce que la situation quand même du Français qui va s'installer à la City, donc un immigrant économique à très forte valeur ajoutée, je suis persuadé par exemple que Nigel Farage ne vise pas peut-être forcément, et encore, il critique la main-d'œuvre de l'Union européenne, hein, Nigel Farage. C'est pas la même chose qu'évidemment la jeune femme syrienne avec deux enfants qui fuyaient la guerre.
Mais pardon, c'est là où est tout le paradoxe. Farage et tous ceux qui défendaient le Brexit promettaient de récupérer le contrôle des frontières, sauf qu'en sortant de l'Union européenne, ils sont sortis de l'accord de Dublin, qui fait que tout immigrant arrivant sur le sol européen doit être renvoyé dans le premier pays où il a mis le pied sur le sol européen. En sortant de l'Union européenne, ils ne sont plus dans l'accord de Dublin.
Et oui.
Donc c'est un problème.
C'est un exemple très intéressant de la difficulté de faire passer l'utilité du droit pour comprendre la complexité de certaines choses. C'est vrai que ce que vous expliquez là, eh bien, le problème c'est que les électrices et les électeurs, c'est trop compliqué. Voilà. Donc on s'en tient à des propos simplistes qui mettent souvent à l'écart le droit et les règles pour faire passer un propos bankable, excusez-moi l'expression, électoralement.
Sur le plan électoral.
Et c'est vrai que le système de Dublin III n'est pas la panacée. Hein. On sait que les Européens l'Union européenne a continué de le faire évoluer, qu'il y a de vives discussions au sein de l'Union sur cette question-là. Mais les Britanniques ont profité assez largement parce que ça restait quand même la première destination de tout immigré.
Et le paradoxe des paradoxes, c'est qu'après le Brexit, les flux migratoires en Grande-Bretagne sont plus importants qu'ils n'étaient avant le Brexit, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on leur avait vendu. Alors, on a bien compris ce qui s'est passé pendant 10 ans, l'état du droit aujourd'hui, notamment dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais demain, quelles pourraient être les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer un retour ? Est-ce que c'est illusoire, envisageable ? Eh ben, c'est la deuxième partie de Coup de Juris.
Le Brexit, 10 ans après, Laurent Neumann reçoit Aurélien Antoine.
Je le disais, Aurélien Antoine, Keir Starmer a démissionné, mais démission ou pas démission, il va y avoir un sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est le 22 juillet prochain, et j'ai retrouvé les propos de Keir Starmer, alors c'était avant sa démission, mais il disait « Mon gouvernement travailliste tient la promesse de réinitialiser notre relation et de replacer le Royaume-Uni au cœur de l'Europe ». Alors j'ai regardé, depuis 5 ans, ça n'est que le deuxième sommet entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est pas beaucoup, il y en a eu un en 2025, il va y en avoir un deuxième cet été.
Ça fait déjà deux en un an,
vous voulez dire qu'il y a une accélération. Ça va être quoi le menu des discussions ? De quoi ils vont parler tous ces braves gens ?
Alors, évidemment de la défense, mais qui n'est pas une problématique du Brexit. Emmanuel Macron disait à juste titre à propos du Brexit que sur les questions de défense, ça a eu peu d'impact. Ce qui est vrai, parce que ce n'est pas une compétence exclusive de l'Union.
On l'a vu au moment de la coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz. La Grande-Bretagne et la France ont topé, si j'ose dire. Oui. Pour le moment, ça ne s'est pas concrétisé, mais en tout cas, ils sont d'accord pour participer à la même coalition des volontaires.
Oui, alors coalition des volontaires qui concerne plus l'Ukraine et l'Europe de l'Est. Mais, et puis, il faudrait que pour sécuriser des détroits, il faudrait que la flotte britannique soit un peu plus en état. Mais c'est vrai que ça va être sans doute la défense qui va continuer de faire l'objet. On va être sur les mêmes thématiques que l'année dernière. Il y a en ce moment une négociation d'un accord phytosanitaire pour fluidifier les échanges, auquel manifestement Keir Starmer était assez attaché. Le changement de Premier ministre ne devrait pas conduire à une modification radicale de l'ambition européenne du Parti travailliste.
Non, mais je vous pose la question parce que dans mon souvenir, lors du précédent sommet de mai dernier, de mai 2025, le sujet majeur, c'était la question de la pêche et des quotas de poissons. Et là, visiblement, on a trouvé un accord. Alors, il n'est pas formidable, c'est un compromis, mais en tout cas, juridiquement, il stabilise la situation pour un certain nombre d'années. Là, on pourrait imaginer, par exemple, sur des sujets comme l'immigration ou comme d'autres sujets économiques.
Ils vont l'aborder aussi.
Ce seront des sujets abordés.
Ce sera abordé. Comme je vous l'ai dit, cet accord phytosanitaire est très important pour les deux partenaires. Ça paraît technique, c'est un terme technique, mais c'est vraiment fondamental. Il faut savoir que les Britanniques, depuis le retrait effectif, on l'évoquait un peu tout à l'heure avec les queues de camions, etc., mais ont mis très tardivement de véritables contrôles sur les denrées venant de l'Union européenne. Du côté de l'Union européenne, ça a été plus le cas pour les denrées venant du Royaume-Uni, mais ils ont été plutôt...
L'Europe a voulu un peu faire payer le Royaume-Uni d'avoir voulu sortir.
Ce qui est de bonne guerre, parce qu'il faut quand même ne pas encourager d'autres États membres de sortir.
Il fallait pas que ça fasse tache d'huile.
Voilà.
Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans les années qui viennent, un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ou est-ce que c'est un fantasme de pro-européen ?
Alors, je disais à certains de vos confrères sur d'autres ondes que pour les Britanniques, c'est un peu refoulé, le Brexit, c'est la réadhésion. Et puis, du côté des Européens, c'est un peu un fantasme, comme vous le dites. Tout cela est assez freudien, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même deux grandes limites de nature politique et de nature juridique. Je vais commencer par les juridiques. Bah, faut renégocier. Faut réadhérer.
Alors, ça, c'est très important. Pardon, je vous interromps. Mais pour que ce soit clair pour tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on annule le Brexit. Ça veut dire qu'il faut refaire une demande d'adhésion et donc tout renégocier. Et là, rien que ça, ça peut prendre des années et des années.
Le reset, là, comme pour reprendre une expression de Keir Starmer qui veut la réinitialisation, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on réinitialise tout s'il faut réadhérer. On ne va pas dire, bon, voilà, on s'est arrêté en 2016 à ça avec tous les opt-outs, par exemple, les dérogations obtenues en droit de l'Union européenne, et puis on repart avec le même bagage.
Ça voudrait dire, d'ailleurs, que si un tel cas de figure était avéré, bah, y a peu de chance pour que le Royaume-Uni ait le droit de ne pas adhérer à l'euro, de ne pas adhérer à Schengen, de voir sa contribution diminuer fortement par rapport aux autres membres de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il repartirait, mais avec des conditions bien moins favorables.
Et oui, notamment sur la question de l'euro. Donc en matière économique, il est fort à parier que demain, le débat est remis dans le débat public comme préoccupation principale au Royaume-Uni, ça risque d'être très compliqué.
Et j'imagine qu'à la fin, il faudrait un référendum. Et alors là, bonjour pour l'expression, mais ce serait compliqué de le faire adopter.
Oui, parce que les mœurs politiques au Royaume-Uni ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. On se souvient de cette fracture qu'a été le traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005 qui a finalement été repris dans ses dimensions d'ailleurs les plus économiques par le traité de Lisbonne en contournant le référendum d'une certaine manière. Les Britanniques n'ont jamais voulu cela. Hein. On se souvient dès le début du Brexit, une fois que ça a été décidé en 2016, très rapidement, on a eu l'idée, on est en train de faire une connerie, faisons un autre référendum. Ben, Theresa May, très justement, a dit non, il y a une décision légitime,
on
ne la remet pas en cause, on va l'appliquer, et s'il faut réadhérer, ce sera une génération. Ça a été la même chose pour l'indépendance de l'Écosse en 2014.
Bon, il ne s'agit pas de remettre ça, c'est très bien, j'ai compris, au moins, c'est clair, il n'y aura pas de retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En tout cas, avant très longtemps. Très bien. Du coup, l'autre question, c'est quelles peuvent être les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? On voit bien que c'est compliqué. Alors, ils remettent un pied dans certains programmes européens. On a cité Erasmus, Copernicus. On voit bien qu'on passe des accords avec la France sur les flux migratoires, avec l'Union européenne sur les quotas de poissons. Mais on voit bien que c'est compliqué, du coup.
C'est compliqué, mais il ne faut pas négliger ce qu'a déjà fait Keir Starmer. On a tendance à minimiser. Je vais revenir encore à mes rapports de la Chambre des communes. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui est assez sévère à son égard. Bon, c'est bien de faire de la parlotte, en gros, hein, de dire reset, réalignement dynamique, qui est d'ailleurs une expression qui vient du droit international. Mais il faut des actes et beaucoup plus de cohérence. Moi, je pense que Keir Starmer a renoué, ça correspond plutôt bien à la restauration de l'autorité diplomatique des Britanniques dans le concert des nations qui avait quand même sérieusement été remis en cause sous les conservateurs, en particulier Boris Johnson et Liz Truss. Et il faut dire que, dans une moindre mesure, Theresa May, mais il faut quand même dire que Keir Starmer adopte une posture très classique dans la diplomatie britannique, pragmatique, de pas à pas, de petits pas. Et finalement, ce sera, sur le long terme, peut-être plus efficace que des grandes déclarations qui peuvent braquer.
Au fond, pour Londres, l'Union européenne, c'est un allié. Pas simplement au sein de l'Union, avec l'Union européenne, mais avec l'OTAN, pour des raisons militaires, pour des raisons de défense. Il n'y a pas de raison de se fâcher avec l'Union européenne. Et je ne parle même pas des questions économiques.
Mmh. Vous évoquez la question de la défense. Enfin, c'est quand même une évolution majeure. Alors, on n'a pas les moyens de nos ambitions pour l'instant. Ça va demander un réinvestissement dans la défense. Et c'est un des éléments que je ne cite pas assez, que j'ai rappelé ici, qui a motivé l'une des éléments qui a motivé la démission de Keir Starmer, c'est que son ministre de la Défense a démissionné quelques temps avant son annonce, juste la semaine dernière, sur fond de discussions assez tendues sur le budget de la défense. Il n'en faisait pas assez. Donc c'est un enjeu pour tout le monde. On sait qu'on a les mêmes discussions en France, mais quand même, on a eu des avancées. Alors peut-être qu'il faut remercier pour une fois sur ce point Donald Trump, mais des avancées qui sont majeures pour ceux qui veulent une relance politique du projet européen, parce que c'est une compétence régalienne, la défense.
Et vous parliez de la défense, il va y avoir dans quelques semaines un sommet de l'OTAN à Ankara qui risque d'être extrêmement chaud, où les pays européens vont devoir évidemment prendre leurs responsabilités si Donald Trump décide de se retirer. Mais justement, moi, ce qui me frappe, c'est que le Brexit reste quand même en filigrane dans les débats politiques en Grande-Bretagne, et en même temps, le monde de 2016 n'a plus rien à voir, ou plutôt celui de 2026 n'a plus rien à voir avec celui de 2016. Il y a l'agressivité économique des Chinois, il y a l'agressivité militaire des Russes, il y a Trump qui dit l'Amérique d'abord, et on voit bien qu'il a moins envie de protéger l'Europe et plutôt de se désengager de l'OTAN. J'ai lu une phrase dans une tribune, il faut que je dise à ceux qui nous écoutent que vous avez publié sur le site du Club des juristes un excellent papier que je vous invite tous à aller lire, mais vous avez publié aussi une tribune dans Le Monde et vous dites ceci: le référendum sur le Brexit fut l'un des tout premiers scrutins majeur, dont l'issue a été fortement influencée par la diffusion massive de fausses nouvelles par voie numérique. Donc, vous écrivez, vous dites, ceux qui ont défendu le Brexit il y a 10 ans ont menti, en fait.
Oui, ils ont menti. Ça a été le cas aussi de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui soutenaient le maintien dans l'Union européenne. Mais on est dans des proportions gigantesques avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le mensonge en politique, c'est presque, j'allais dire, ontologique. Mais la force de frappe de ceux qui ont parfaitement compris à cette époque-là l'impact des réseaux sociaux, cette force de frappe des réseaux sociaux, c'est le Brexit, hein, c'est cette campagne-là majeure qui a permis de le révéler.
Alors très bien, et c'est ma dernière question, ils ont menti. Aujourd'hui, il y a presque 6 Anglais sur 10, 6 Britanniques sur 10 qui regrettent plutôt le Brexit. Et en même temps, les électeurs britanniques plébiscitent le parti de Nigel Farage. Là, il faut que vous m'expliquiez, c'est plus de la schizophrénie, ça devient c'est pathologique.
Dans ma tribune dans Le Monde, je parle d'insupportable paradoxe. Mais pourquoi Nigel Farage, il est très, très à l'aise avec ça. Il dit, de toute façon, je n'étais pas Premier ministre. Si je l'avais fait, ça aurait été mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très facile, c'est de la démagogie. C'est impossible à contredire. Mais il n'empêche qu'il faudrait l'interroger pour les détails de son programme. D'aller voir mais comment vous envisagez des négociations économiquement, de surmonter ce que l'on a pu évoquer dans notre échange. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les électrices et les électeurs, et c'est ce que je dis aussi dans cette tribune, en ont marre qu'on leur explique des choses compliquées. Parce que, manifestement, ça n'améliore pas non plus leur sort. Et il y a un peu, là, pour le coup, une faillite des partis modérés, qui ont parfois un peu oublié de convaincre, et David Cameron est très fautif sur le Brexit.
La nuance est difficile à défendre.
La nuance est difficile, et puis il a quand même négocié de nouvelles conditions en 2016, David Cameron, pour dire à l'Union européenne, donnez-moi encore des avantages au sein de l'Union, encore plus de particularisme, pour que je soutienne le maintien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit devant ses électeurs, l'Union européenne s'impose pose vraiment des problèmes. Vous allez voir, je vais négocier. Il a réussi à négocier, donc il faut qu'on y reste. Mais sauf qu'il a, finalement dévalorisé l'Union européenne aux yeux des Britanniques déjà à ce moment-là. Et c'est ça qui est un peu pénible, c'est l'instrumentalisation de certains sujets qui permettent de désigner. C'est du grand classique aussi, j'invente absolument rien, de désigner des adversaires, des responsables sur lesquels on prétend ne pas avoir prise. L'Union européenne, on aurait pu parler aussi du système de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus politiquement, ce qu'on appelle le migrant, qui en fait reflète plein de réalités différentes et beaucoup de complexité.
Ce sera le mot de la fin. Merci Aurélie et Antoine d'être venus nous éclairer sur ces sujets. Je rappelle deux choses. D'abord qu'il faut aller lire l'article d'Aurélie et Antoine sur le site du Club des juristes. Il faut lire aussi son livre, je rappelle le titre, Le Royaume-Uni, une société libérale en péril, paru le 27 mai aux éditions Odile Jacob. Puis je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes, sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur le site du Club des juristes, évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le 116e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.